Chapitre 9. La veille du sacre. Les portes de Reims, surmontées des armoiries royales, avaient été repeintes à neuf. Les rues étaient encourtinées de draperies éclatantes, de tapis et de soieries, les mêmes qui avaient servi 18 mois auparavant pour le sacre de Louis X. Auprès du palais archiépiscopal, trois grandes salles de charpenterie venaient d'être édifiées à la hâte. L'une pour la table du roi, l'autre pour la table de la reine, la troisième pour les grands officiers, afin de donner festin à toute la cour. Les bourgeois de Reims, qui étaient astreints aux dépenses du sacre, trouvaient la charge un peu lourde. « Si l'on se met à mourir si vite au trône, disait-il, nous ne ferons bientôt plus qu'un seul repas l'an pour lequel il nous faudra vendre nos chemises. Clovis nous coûte gros de s'être fait administrer le baptême chez nous et Hugues Capet d'avoir choisi d'y recevoir la couronne. Si quelque autre ville du royaume veut nous acheter la Sainte Ampoule, nous conclurions bien le marché. » Aux gênes de trésorerie s'ajoutait la difficulté de réunir en plein hiver le ravitaillement somptuaire nécessaire à tant de bouches. Et les bourgeois rémois dénuméraient 82 bœufs, 240 moutons, 425 veaux, 78 porcs, 800 lapins et lièvres, 800 chapons, 1820 oies, plus de 10 000 poules et 40 000 œufs. Sans parler des barils d'esturgeon qu'on avait dû faire venir de Malines, des 4000 écrevisses pêchées en eau froide, des saumons, brochets, tanches, brèmes, perches et carpes, des 3500 anguilles destinées à la fabrication de 500 pâtés. On disposait de 2000 fromages, et l'on espérait que 300 tonneaux de vin, celui-ci heureusement produit par le pays, suffiraient à abreuver tant de gueules assoiffées qui allaient banqueter là pendant 3 jours ou plus. Les chambellans, arrivés à l'avance pour régler l'ordonnance des fêtes, montraient de singulières exigences. N'avait-il pas décidé qu'on présenterait à un seul service 300 hérons rôtis? Ces officiers ressemblaient bien à leur maître, à ce roi pressé qui commandait son sacre d'une semaine sur l'autre, pour ainsi dire, comme s'il s'agissait d'une messe de 2 liards à l'intention d'une jambe cassée. Depuis des jours, les pâtissiers montaient leur château fort en pâte d'amande peint aux couleurs de France. Et la moutarde? On n'avait pas reçu la moutarde. Il en fallait 31 sautiers. Et puis les convives n'allaient pas manger dans le creux de la main. On avait eu bien tort de vendre à vil prix les 50 000 écuelles de bois du sacre précédent. Il eût été plus profitable de les laver et de les garder. Pour les 4000 cruches, elles avaient été cassées ou volées. Les lingères ourlaient à la hâte 2 600 aunes de nappe, et l'on pouvait compter que la dépense totale s'élèverait à près de 10 000 livres. À vrai dire, les Rémois y trouveraient tout de même leur compte, car le sacre avait attiré force marchands lombards et juifs qui payaient taxes sur leurs ventes. Le couronnement, comme toutes les cérémonies royales, se déroulait dans une ambiance de kermesse. C'était un spectacle ininterrompu qu'on offrait au peuple en ces journées-là, et qu'on venait voir de loin. Les femmes se voulaient parées de robes neuves, les galants ne rechignaient pas à la joaillerie, la broderie, les beaux draps, les fourrures se vendaient sans peine. La fortune était aux habiles, et les boutiquiers qui montraient un peu de hâte à servir la pratique pouvaient, en une semaine, se faire leur aisance pour 5 ans. Le nouveau roi logeait au palais archiépiscopal, devant lequel la foule stationnait en permanence pour voir apparaître les souverains ou pour s'ébahir devant le char de la reine, un char tendu d'écarlate vermeille. La reine Jeanne, environnée de ses dames de parage, présidait, avec une agitation de femme comblée, au déballage des 12 malles, des 4 bahuts, du coffre à chaussures, du coffre à épices. Sa garde-robe était à coup sûr la plus belle qu'ait jamais eue dame de France. Un vêtement particulier avait été prévu pour chaque jour et presque chaque heure de ce voyage triomphal. Sous une chape de drap d'or fourré d'hermine, la reine avait fait son entrée solennelle en la ville, tandis que le long des rues, on offrait aux époux royaux des représentations, mystères et divertissements. Au souper de veille du sacre, qui aurait lieu tout à l'heure, la reine paraîtrait dans une robe de velours violet bordée de menus verts. Pour le matin du couronnement, elle avait une robe de drap d'or de Turquie, un manteau d'écarlate et une cotte vermeille. Pour le dîner, une robe brodée aux armes de France. Pour le souper, une robe de drap d'or et 2 manteaux d'hermine différents. Le lendemain, elle porterait une robe de velours vert et ensuite une autre de camoca azuré avec pèlerine de petit gris. Jamais elle ne se produirait en public dans la même parure, ni sous les mêmes joyaux. Ces merveilles s'étalaient dans une chambre dont la décoration avait été également apportée de Paris. Tentures de soie blanche brodées de 1321 perroquets d'or, avec au centre les grandes armes des comtes de Bourgogne où passait un lion de gueule. Ciel de lit, courtepointe et coussin étaient ornés de 7000 trèfles d'argent. Sur le sol avaient été jetés des tapis aux armes de France et de Bourgogne-Comté. À plusieurs reprises, Jeanne était entrée dans l'appartement de Philippe afin de faire admirer à celui-ci la beauté d'une étoffe, la perfection d'un travail.
« Mon cher sire, mon bien-aimé, s'écriait-elle, que vous me faites heureuse !»
Si peu encline qu'elle fût aux démonstrations vives, elle ne pouvait s'empêcher d'avoir les yeux humides. Son propre sort l'éblouissait, surtout lorsqu'elle se rappelait le temps récent où elle se trouvait en prison à Dourdan. Quel prodigieux retour de fortune, en moins d'un an et demi. Elle songeait à Marguerite la Morte, elle songeait à sa sœur Blanche de Bourgogne, toujours enfermée à Château-Gaillard.
Pauvre Blanche qui aimait tant les parures,
pensait-elle en essayant une ceinture d'or incrustée de rubis et d'émeraudes. Philippe était soucieux, et les enthousiasmes de sa femme l'assombrissaient plutôt. Il examinait les comptes avec son grand argentier.
« Je suis fort aise, ma bonne mie, que tout ceci vous complaise, » finit-il par répondre. « Voyez-vous, j'agis selon l'exemple de mon père qui, comme vous l'avez connu, était fort mesuré en sa dépense personnelle, mais ne lésinait point lorsqu'il s'agissait de la majesté royale. Montrez bien ces beaux habits, car ils sont pour le peuple qui vous les donne sur son labeur, tout autant que pour vous. Et prenez-en grand soin, car vous ne pourrez de sitôt en avoir de pareils. Après le sacre, il faudra nous restreindre.
« Philippe, demanda Jeanne, ne ferez-vous rien en ce jour pour ma sœur Blanche ?»«
J'ai fait. Elle est à nouveau traitée en princesse, sous la réserve qu'elle ne sorte pas des murailles où elle est. Il faut qu'il y ait une différence entre elle qui a péché et vous, Jeanne, qui fûtes toujours pure et qu'on a faussement accusée. »
Il avait prononcé ces dernières paroles en portant sur sa femme un regard où se lisait davantage le souci de l'honneur royal que la certitude de l'amour. « Et puis, ajouta-t-il, son mari ne me cause guère de joie en ce moment. C'est un bien mauvais frère que j'ai là. » Jeanne comprit qu'il serait vain d'insister et qu'elle aurait avantage à ne pas revenir sur le sujet. Elle se retira et Philippe se remit à l'étude des longues feuilles chargées de chiffres que lui présentait Geoffroy de Fleury. Les frais ne se limitaient pas aux seuls vêtements du roi et de la reine. Certes, Philippe avait reçu quelques présents. Ainsi, Mao avait offert le drap marbré pour les robes des petites princesses et du jeune Louis-Philippe. Mais le roi était tenu d'habiller de neuf ses 54 sergents d'armes et leur chef, Pierre de Galard, maître des arbalétriers. Adam Héron, Robert de Gamache, Guillaume de Cérise, les chambellans, avaient reçu chacun 10 aunes de riz et de douai pour se faire des cottes hardies. Henri de Meudon, Furan de la Foilly, Jeannot Malgeneste, les veneurs, avaient touché un nouvel équipement, ainsi que tous les archers. Et comme on armerait 20 chevaliers après le sacre, c'était encore 20 robes à donner. Ces présents de vêtements constituaient les gratifications d'usage, et l'usage voulait aussi que le roi fît ajouter à la châsse de Saint-Denis une fleur de lys en or constellée d'émeraudes et de rubis.
« Au total ?» demanda Philippe. 8548 livres, 13 sols et 11 deniers, sire, répondit l'argentier. Peut-être pourriez-vous demander une contribution de joyeux avènement.
Mon avènement sera plus joyeux si je n'impose pas de nouvelles taxes. Nous ferons face autrement, dit le roi. Ce fut à ce moment qu'on annonça le comte de Valois. Philippe éleva les mains vers le plafond.
Voilà ce que nous avions oublié en nos additions. Vous allez voir, Geoffroy, vous allez voir. Cet oncle-là va me coûter plus cher à lui seul que 10 sacres. Il vient me mettre marché en main. Laissez-moi seul avec lui.
Ah, qu'il était splendide, monseigneur de Valois. Brodé, chamarré, doublé de volume par d'épaisses fourrures qui s'ouvraient sur une robe cousue de pierres précieuses. Si les habitants de Reims n'avaient pas su que le nouveau souverain était jeune et maigre, on eût pris ce seigneur-là pour le roi lui-même.
Mon cher neveu, commença-t-il. Vous me voyez bien en peine pour vous. Votre beau-frère d'Angleterre ne vient pas.
Il y a longtemps, mon oncle, que les rois d'Outre-Manche n'assistent plus à nos sacres, répondit Philippe.
Certes, mais ils y sont représentés par quelques parents ou grands seigneurs de leur cour pour occuper leur place de duc de Guyenne. Or, Édouard n'a envoyé quiconque. C'est confirmé ainsi qu'il ne vous reconnaît pas. Le comte de Flandre, que vous pensiez avoir amadoué par votre traité de septembre, n'est pas là non plus, ni le duc de Bretagne.
Je sais, mon oncle, je sais.
Quant au duc de Bourgogne, n'en parlons point. Nous étions sûrs qu'il vous ferait défaut, mais, en revanche, sa mère, notre tante Agnès, vient d'entrer en la ville tout à l'heure, et je ne pense pas que ce soit précisément pour vous apporter son soutien.
Je sais, mon oncle, je sais, répéta Philippe.
Cette arrivée imprévue de la dernière fille de Saint-Louis inquiétait Philippe plus qu'il ne le laissait paraître. Il avait d'abord pensé que la duchesse Agnès venait négocier, mais elle ne montrait guère de hâte à se manifester, et lui-même était décidé à ne pas faire la première démarche. « Si le peuple qui m'acclame quand je parais savait de quelles hostilités et menaces je suis entouré, » se disait-il.
« Si bien que des pères laïcs qui doivent demain soutenir votre couronne, » reprit Valois, « vous n'en avez présentement aucun. »«
Mais si, mon oncle, vous oubliez la comtesse d'Artois, et vous-même. »
Valois eut un violent mouvement d'épaule.
« La comtesse d'Artois !» s'écria-t-il. « Une femme pour tenir la couronne, alors que vous-même, Philippe, vous-même, n'avez tiré vos droits que de l'exclusion des femmes !»«
Soutenir la couronne n'est point la cindre, » dit Philippe.
« Faut-il que Mao ait aidé à votre accession pour que vous la grandissiez de la sorte ? Vous allez donner crédit davantage à tous les mensonges qui circulent. Ne revenons point sur le passé, mais enfin, Philippe, n'est-ce pas Robert qui devrait figurer pour l'Artois ?»
Philippe feignit de ne pas porter attention aux dernières paroles de son oncle. « De toute façon, les pères ecclésiastiques sont là, » dit-il.
« Ils sont là, ils sont là !» dit Valois en agitant ses bagues. « Déjà, ils ne sont que 5 sur 6. Et que croyez-vous qu'ils vont faire, ces pères d'église, quand ils verront que du côté du royaume, une seule main, et laquelle, va se lever pour vous couronner ?»«
Mais, mon oncle, vous comptez-vous donc pour rien ?»
Ce fut le tour de Valois de ne pas relever la question.
« Votre frère lui-même vous boude, » dit-il.
« C'est que Charles, sans doute, » répondit Philippe doucement, « ne sait point assez, mon cher oncle, comme nous sommes bien accordés, et qu'il croit peut-être vous servir en me desservant. Mais rassurez-vous, il est annoncé et sera là demain. »«
Que ne lui conférez-vous aussitôt la pairie ? Votre père l'a fait pour moi, et votre frère Louis pour vous. Ainsi, je me sentirai moins seul à vous soutenir. » »«
Ou moins seul à me trahir, » pensa Philippe, qui reprit. « Est-ce pour Robert ou pour Charles que vous venez plaider, ou bien désirez-vous me parler de vous-même ?»
Valois prit un temps, se carra dans son siège, regarda le diamant qui brillait à son index. « 50 ou 100 000 ?» se demandait Philippe. « Les autres, je m'en moque, mais lui m'est nécessaire, et il le sait. S'il refuse et fait esclandre, je risque d'avoir à remettre mon sacre. »
« Mon neveu, » dit enfin Valois, « vous voyez bien que je n'ai pas rechigné et que j'ai même fait grand frais de costume et de suite pour vous honorer. Mais à constater que les autres pères sont absents, je crois que je vais devoir aussi me retirer. Que ne dirait-on pas si l'on me voyait seul à votre côté, que vous m'avez acheté, tout bonnement ?»«
Je le déplorerais fort, mon oncle, je le déplorerais fort, mais que voulez-vous ? Je ne puis vous obliger à ce qui vous déplaît. » Peut-être le temps est-il arrivé de renoncer à cette coutume qui veut que les pères lèvent la main auprès de la couronne.
« Mon neveu ! Mon neveu !» s'écria Valois.
« Et s'il faut consentement d'élection, enchaîna Philippe, de le demander non plus à 6 grands barons, mais au peuple, mon oncle, qui fournit en hommes les armées et en subside le trésor. Ce sera le rôle des États que je vais réunir. »
Valois ne put se contenir et, sautant de son siège, se mit à crier.
« Vous blasphémez, Philippe, ou vous égarez tout à fait ? A-t-on jamais vu monarque élu par ses sujets ? Belle novelté que vos états ! Cela vient tout droit des idées de Marigny, qui était né dans le commun et qui fut si nuisible à votre père. Je vous dis bien que si l'on commence ainsi, avant 50 ans, le peuple se passera de nous et choisira pour roi quelque bourgeois, docteur de parlement, ou même quelque charcutier enrichi dans le vol. Non, mon neveu, non !» Cette fois, j'y suis bien décidé. Je ne soutiendrai point la couronne d'un roi qui ne l'est que de son chef et qui veut de surcroît faire en sorte que cette couronne, bientôt, soit la pâture des manants.
Tout empourpré, il déambulait à grands pas. 50 000 ou 100 000, continuait de se demander Philippe. De quel chiffre faut-il les stocker?
Soit, mon oncle, ne soutenez rien, dit-il. Mais souffrez alors que j'appelle aussitôt mon grand argentier.
Pourquoi donc?
Pour lui enjoindre de modifier la liste des donations que je devais sceller demain, en signe de joyeux avènement, et sur laquelle vous vous trouviez le premier, pour 100 000 livres.
Les stocks avaient porté. Valois restait pantois, les bras écartés. Philippe comprit qu'il avait gagné, et si cher que lui coûta cette victoire, il dut faire effort pour ne pas sourire devant le visage que lui présentait son oncle. Celui-ci, d'ailleurs, ne mit pas longtemps à se tirer d'embarras. Il avait été arrêté dans un mouvement de colère. Il le reprit. La colère était chez lui un moyen pour tenter de brouiller le raisonnement d'autrui lorsque le sien devenait trop faible.
« D'abord, tout le mal vient d'Eudes, lança-t-il. Je le réprouve beaucoup et le lui écrirai. Et qu'avait besoin le comte de Flandre et le duc de Bretagne de prendre son parti et de récuser votre convocation? Quand le roi vous mande pour soutenir sa couronne, on vient. Ne suis-je pas là, moi? Ces barons, en vérité, outrepassent leurs droits. C'est ainsi, en effet, que l'autorité risque de passer aux petits vassaux et aux bourgeois. Quant à Édouard d'Angleterre, quelle foi peut-on faire à un homme qui se conduit en femme? Je serai donc à vos côtés pour leur faire leçon. Et ce que vous avez décidé de me donner, je l'accepte, mon neveu, par souci de justice. Car il est juste que ceux qui sont fidèles au roi soient traités autrement que ceux qui le trahissent. Vous gouvernez bien. Ce don qui me marque votre estime, quand allez-vous le signer?
À présent, mon oncle, si vous le souhaitez, mais daté de demain, répondit le roi Philippe V. Pour la troisième fois, et toujours par moyen d'argent, il avait muselé Valois. Il était temps que je sois couronné, dit Philippe à son argentier quand Valois fut parti. Car s'il m'avait fallu discuter encore, je crois que la prochaine fois, j'aurais dû vendre le royaume. Et comme Fleury s'étonnait de l'énormité de la somme promise, « Rassurez-vous, rassurez-vous, Geoffroy, » ajouta-t-il. « Je n'ai point encore marqué quand cette donation serait versée. Il ne la touchera que par petite fraction, mais il pourra emprunter dessus. Maintenant, allons à souper. » Le cérémonial voulait qu'après le repas du soir, le roi, entouré de ses officiers et du chapitre, se rendît à la cathédrale pour s'y recueillir et faire oraison. L'église était déjà toute prête, avec les tapisseries pendues, les centaines de cierges en place et la grande estrade élevée dans le chœur. Les prières de Philippe furent courtes, mais il passa néanmoins un temps considérable à se faire instruire une dernière fois du déroulement des rites et des gestes qu'il aurait lui-même à accomplir. Il alla vérifier la fermeture des portes latérales, s'assura des dispositions de sécurité et s'enquit de la place de chacun. Les pères laïcs, les membres de la famille royale et les grands officiers sont sur l'estrade, lui expliqua-t-on. Le connétable reste à côté de vous. Le chancelier se tient à côté de la reine. Ce trône, en face du vôtre, est celui de l'archevêque de Reims, et les sièges disposés autour du maître-autel sont pour les pères ecclésiastiques. Philippe parcourait l'estrade à pas lents, aplatissait du bout de son pied le coin soulevé d'un tapis. « Comme c'est étrange, se disait-il. J'étais ici, à cette même place, l'autre année pour le sacre de mon frère. Je n'avais point porté attention à tous ces détails. » Il s'assit un moment, mais non sur le trône royal. Une crainte superstitieuse lui défendait de l'occuper déjà. « Demain, je serai vraiment roi. » Il pensait à son père, à la lignée d'aïeux qu'il avait précédé en cette église. Il pensait à son frère, supprimé par un crime dont il était innocent, mais dont tout le profit maintenant lui revenait. Il pensait à l'autre crime, celui commis sur l'enfant qu'il n'avait pas ordonné non plus, mais dont il était le complice muet. Il pensait à la mort, à sa propre mort, et aux millions d'hommes, ses sujets, aux millions de pères, de fils, de frères, qu'il gouvernerait jusque-là. Sont-ils tous à ma semblance, criminels s'ils en avaient l'occasion? Innocent seulement d'apparence et prêt à se servir du mal pour accomplir leur ambition. Pourtant, lorsque j'étais à Lyon, je n'avais que des vœux de justice. Est-ce bien sûr?
La nature humaine est-elle si détestable, ou bien est-ce la royauté qui nous rend ainsi? Est-ce le tribut que l'on paye à régner que de se découvrir à tel point impur et souillé? Pourquoi Dieu nous a-t-il fait mortels, puisque c'est la mort qui nous rend détestables, par la peur que nous en avons comme par l'usage que nous en faisons? On va peut-être tenter de me tuer cette nuit. Il regardait de hautes ombres vaciller sur les murs entre les piliers. Il n'éprouvait pas de repentance, mais seulement un manque de bonheur. Voilà sans doute ce qu'on appelle faire oraison, et pourquoi l'on nous conseille la nuit avant le sacre cette station en l'église. Il se jugeait lucidement tel qu'il était, un mauvais homme avec les dons d'un très grand roi. Il n'avait pas sommeil. Il fut resté volontiers là, longtemps encore, à méditer sur lui-même, sur l'humaine destinée, sur l'origine de nos actes, et à se poser les vraies grandes questions du monde, celles qui ne peuvent jamais être résolues. « Combien de temps durera la cérémonie ?» demanda-t-il. « 2 pleines heures, sire. Allons, il faut nous forcer à dormir. Nous devons être dispos demain. » Mais lorsqu'il eut regagné le palais archiépiscopal, il entra chez la reine et s'assit au bord du lit. Il entretint sa femme de choses sans intérêt évident. Il parlait des places dans la cathédrale, il se souciait du vêtement de ses filles. Jeanne était déjà à demi endormie, elle luttait pour rester attentive. Elle discernait chez son mari une tension des nerfs et une sorte d'angoisse montante contre laquelle il cherchait protection. « Mon ami, demanda-t-elle, voulez-vous dormir auprès de moi ?» Il parut hésiter. « Je ne puis, le chambellan n'est pas prévenu, répondit-il. « Vous êtes roi, Philippe, dit Jeanne en souriant. Vous pouvez donner à votre chambellan les ordres qu'il vous plaît. » Il mit un temps à se décider. Ce jeune homme qui savait, par les armes ou l'argent, mater ses plus puissants vassaux, éprouvait de la gêne à informer ses serviteurs qu'il allait, par désir imprévu, partager le lit de sa femme. Enfin, il appela une des chambrières qui dormait dans la pièce attenante et l'envoya prévenir Adam et Ron qu'il n'eut pas à l'attendre, ni à coucher cette nuit en travers de sa porte. Puis, entre les tentures à perroquets, sous les trèfles d'argent du ciel de lit, il se dévêtit et se glissa dans les draps. Et cette grande angoisse, dont ne pouvaient le défendre toutes les troupes du connétable, car c'était angoisse d'homme et non angoisse de roi, s'apaisa au contact de ce corps de femme, contre ses jambes fermes et hautes, ce ventre docile et cette poitrine chaude. « Mamie, murmura Philippe dans les cheveux de Jeanne. Mamie, réponds-moi. M'as-tu trompé ? Réponds sans crainte, car même si tu m'as trahi naguère, sache-toi pardonner. » Jeanne étreignit les longs flancs secs et robustes où l'ossature était sensible sous ses doigts. « Jamais, Philippe, je te le jure, répondit-elle. J'ai été tentée de le faire, je te le confesse, mais je n'ai point cédé. « Merci, mamie, chuchota Philippe. Rien ne manque donc à ma royauté. » Il ne manquait plus rien à sa royauté, parce qu'il était en vérité pareil à tous les hommes de son royaume. Il lui fallait une femme, et qu'elle fût bien à lui.